RCF.
Chers amis auditeurs, bonjour, je suis bien contente de vous retrouver. Vous et vos passions, oui, dans notre émission À vos passions, je vais à votre rencontre, vous qui avez décidé de vivre votre passion coûte que coûte. Alors aujourd'hui, j'accueille avec un grand plaisir un homme qui illustre au pied de la lettre notre propos. C'est un aventurier, un touche-à-tout, un homme de talent, de tous les talents, qui a vécu sa passion pendant toute sa vie de multiples façons. Il s'agit de la passion de la mer. Sylvain Berthomé, bonjour.
Bonjour Béatrice.
Vous avez grandi dans la région parisienne, alors là j'aimerais bien savoir comment un petit Parisien fait pour vivre sa passion de la mer dans les petits caniveaux de Paris.
Alors d'abord j'étais en banlieue, ça aide déjà un peu plus,
oui.
Choisy-sur-Seine, donc au bord de la Seine. Et j'ai pu commencer seulement à aller sur l'eau à 16 ans. Au tout début, c'était un Zef, je me souviens bien. La première fois que je suis monté sur un dériveur, c'est un Zef. Et ensuite, c'était un 4,45, je crois, un Simoun.
Alors, comment vous est venue cette passion de la mer?
Sans doute la lecture de « Seul à travers l'Atlantique » d'Alain Gerbaud, qui traverse l'Atlantique sur un récit... terrible, dantesque, de tempête incroyable, sur un bateau en bois assez petit.
Mais ça vous a pas fait peur? Vous avez envie de faire pareil?
Eh bien, ce qui m'a poussé à aller naviguer, c'est d'abord qu'il l'avait réussi, il l'avait fait, sur un bateau que, même tout jeune, j'avais trouvé que c'était pas très adapté. En plus, le bateau était vieux par rapport au bateau moderne. Et j'avais lu aussi le livre de Tabarly en 64, là, quand il avait gagné l'Eurostar, la transat anglaise. Et alors là, c'est un agenda, hein, c'est pas littéraire du tout, mais cette lecture de quotidien en mer, toujours quelque chose à faire, que ce soit de faire le point, la cuisine.
Il y a du boulot.
Voilà, y a toujours quelque chose à faire.
Vous nous raconterez ça. Mais avant de naviguer, vous êtes entré au CNRS et vous avez décidé de quitter un poste quand même très sérieux et sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, vos proches? Comment ils ont pris ça?
Ben effectivement, ouais, c'est pas facile de rentrer au CNRS, et quand on le quitte, les gens disent « oulala ». Et surtout pour partir en mer, hein, dans le course au large, qui n'est pas non plus la meilleure des choses pour les gens qui restent à terre, ça je le reconnais. Donc mes parents m'ont fait, j'étais majeur, hein, voilà, j'ai fait ça, c'était un choix, j'ai pas été critiqué plus que ça non plus. Hein,
bon.
Voilà, donc... J'ai pas été encouragé, ça c'est sûr, mais on m'a pas dit non plus jeter l'opprobre parce
non.
que j'avais choisi cette voie-là, qui était une voie d'ingénieur en fait, hein, puisque je partais sur la course au large, mais aussi en apportant des choses sur les bateaux de course.
Alors, on va voir ça. Bien sûr, vous avez voulu faire les courses transatlantiques et ça vous a bien réussi, puisqu'en 1985, Sylvain Berthomé, vous êtes arrivé troisième de la Mini Transat en solitaire. Alors, est-ce que ce succès vous a conforté dans votre passion?
Oui, ça m'a vraiment... D'abord, ça fait très plaisir, surtout que j'avais gagné la première étape, donc c'était c'était une surprise, hein, à la fois pour les journalistes et pour moi.
Oui.
Et puis, voilà, et surtout quand on se sent bien en mer, c'est ça qui est, je crois, le plus important. C'est pas seulement le fait de courir, et puis si on arrive bien, c'est bien, mais il y en a qui arrivent bien et qui sont pas bien pour autant en mer. Et moi, j'ai cette chance d'être plutôt bien, et quand la course est longue, je suis bien quand même. J'ai pas hâte nécessairement d'arriver.
Oui, ça, on peut s'en apercevoir, ne savoir si on est bien ou pas que dans l'acte. Hein. Donc, c'était la bonne surprise. Mais ce qui n'est pas banal pour cette course, c'est que vous avez construit votre bateau. Bon, il ne suffit pas, je pense, d'être bricoleur pour construire un bateau. Comment ça s'est passé?
Pour être exact, en 85, je n'ai pas construit mon bateau. J'avais récupéré en 80. J'avais fait en 83 déjà sur un Muscadet. En 85, sur un Proto Luca. Une grande histoire, mais là, ça va déborder. Et puis, en 87, j'ai... effectivement, j'ai mis en chantier, enfin en 85, au retour de la Transat, j'ai mis en chantier un bateau assez nouveau, oui, avec un ultra léger et avec un système de dérive, de quille et dérive. Il y avait un mât en carbone, ce qui était assez innovant aussi à l'époque.
Ouais, il y avait déjà une certaine invention. Ça vous a demandé combien de temps tout ça?
Une année de construction complète.
Une année d'amour. Alors, on le sait justement, c'est pas facile sur le plan financier de vivre sa passion. Et naviguer, c'est pas gratuit. Quelle était votre recette? Est-ce que vous avez eu un mentor, des mentors?
Alors, j'ai trouvé, quand j'ai quitté le Sénat, j'avais pas de sponsor. Je voulais me mettre un peu en danger, entre guillemets, en me disant, si j'attends de trouver un sponsor pour quitter le CNRS, il y aura toujours une bonne raison pour pas partir. Et là, non, je suis parti et vraiment, j'ai été démarché pour trouver des sous. J'ai trouvé des sous, c'était très juste, un budget très très limité, mais réussi à faire un bateau, ouais, pour 87, ouais.
Ouais, c'est ça aussi, naviguer, hein, faire attention à ses petits sous. Vivre sa passion, c'est un privilège, ça fait bouger beaucoup de choses. Aussi, est-ce que ça vous a fait évoluer? En quoi votre vie a été modifiée dans le fait de vivre votre passion?
Eh bien, déjà, on a un rapport, je crois, avec la vie, avec un V majuscule, c'est-à-dire les liens avec les autres. Parce que quand on navigue au large, il est clair que quand on revient à terre, les liens sont forts avec les gens qu'on rencontre ou qu'on retrouve. On va à l'essentiel. Et ça a été très très important parce que nous, on vit des choses pas communes en mer. C'est difficile à partager si on raconte à quelqu'un que tous les jours on voit un lever de soleil différent, tout ça. Bon, ouais, bah, sur Terre aussi, bah, pas tout à fait, mais c'est difficile à expliquer tout ça. Et en fait, du coup, on a des échanges qui sont assez profonds sans pour autant faire des grandes phrases. On a une belle. Je trouve une belle harmonie. Alors déjà avec les gens qui ont connu d'autres choses aussi. C'est-à-dire qu'on va souvent du coup vers, ça peut être des montagnards ou des gens qui ont fait d'autres expéditions ou des gens qui ont vécu dans leur vie personnelle peut-être affronté même une maladie ou autre, des choses assez profondes. Et on va vite à l'essentiel après dans les relations quand on a été en mer, je crois.
Alors justement, vous avez vécu sans doute des liens très forts quand vous avez décidé de naviguer en famille, sans parier aux dés, parce que l'école sur un bateau, ça peut paraître plutôt sympathique, mais la sécurité, le huis clos, la perte des repères, c'est plus dur pour les enfants, non?
Ah, les enfants, ils suivent les parents, qu'ils étaient tout petits. Si les parents sont bien en mer, les enfants sont bien en mer. Et là, c'était tellement le cas qu'on avait du mal à les faire sortir sur le pont, tellement ils étaient bien dans le bateau, à jouer dans le bateau. Et au mouillage, après, quand on arrive à une escale, les enfants sont vraiment. Tout de suite, ils repèrent le bateau sur lequel il y a des enfants que nous, on n'a même pas vu. Donc, ça leur éveille les sens de manière. Assez aiguisé aussi, hein. Donc tout ça, on sent bien que c'est positif.
Je vois bien tous les côtés positifs, découvrir le monde, découvrir les gens, mais il y avait quand même des moments, j'imagine, assez difficiles. Déjà sur le plan sécurité, est-ce qu'ils étaient toujours attachés ou pas?
Ah oui,
Ils étaient
les
sous
enfants,
l'armée?
oui. Ça, les enfants étaient évidemment avec une brassière et toujours attachés dès qu'ils étaient dehors, même dans le cockpit. Mais avec toujours aussi la sécurité, c'est. Alors, si on est trop dans une obsession sécuritaire, on va faire des erreurs. Je crois qu'il y a vraiment. Il faut faire la part des choses de ce qui est important et tout, et puis éduquer les enfants à ça. Il faut qu'ils aient peur. Je me souviens d'une fois où j'ai fait. Tomber un personnage avec lequel jouait mon fils, qui était petit. Et on était au mouillage, mais il y avait un peu de courant. Et en le faisant tomber à l'eau, j'ai dit, regarde. Et le personnage s'est
Oh
éloigné du
là là
bateau,
là
à l'arrière.
là,
Et je lui dis, tu vois, si tu tombes à l'eau, c'est pareil.
ouais. Ça, c'était une bonne leçon, cruelle, mais certainement très efficace, j'imagine.
Oui, enfin, cruel. Bah après, on a sorti l'annexe, on a été chercher le
Ouais.
personnage, on a montré qu'on pouvait faire quelque chose, mais que c'était très compliqué, que là, on était en plus à l'arrêt. Alors en mer, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que il faut faire prendre conscience, c'est évident.
C'est quand même très très riche comme expérience. J'imagine le rêve de beaucoup de familles. Sylvain Berthomé, vous avez participé à la construction du phare du bout du monde à la pointe sud de l'Argentine. Ici, à La Rochelle, on connaît bien sa réplique, hein. On connaît moins l'histoire de l'original. Racontez-nous.
Alors là, c'est un ami, André Bronner, alias Yul, qui un jour sur le bateau avec des amis était en expédition sur l'île des États, là où est ce phare, et où était, puisqu'il est tombé sur les ruines de ce phare. Je vais faire un petit peu court. Et lui s'était perdu, il a retrouvé les ruines de ce phare, et du coup, il a décidé de reconstruire ce phare qui se trouve sur l'île des États. Mais ce n'est pas n'importe quel phare, c'est un phare qui est décrit par Jules Verne dans un livre qui s'appelle « Le phare du bout du monde ». Le phare décrit par Jules Verne est un phare en pierre, une tour, comme on a l'habitude de s'imaginer un phare. Or là, c'est pas du tout le cas, c'était une cabane en bois, une belle cabane en bois, mais avec des fenêtres par lesquelles sortait la lumière. Et comme cette cabane est sur un cap, un promontoire, elle était assez haute pour pouvoir diffuser la lumière. Et quand Yul est arrivé là-bas, il a trouvé juste un tas de planches et puis la sphère qui était au-dessus du phare pour faire un amer remarquable de jour. Et donc, il a monté une association, à l'époque, bah, j'avais été le numéro 1 même, je crois, engagé à y aller. Puis on y est parti avec le bateau de famille, justement, les enfants, pour aller reconstruire ce phare en Patagonie.
Quelle belle aventure, hein. Autre activité autour de la passion de la mer que vous avez réalisée, vous avez été, je crois savoir, un des premiers à créer des cerfs-volants ou kites pour tracter des bateaux. Les planches, d'accord, mais des bateaux. Comment l'idée vous est-elle venue et puis est-ce que vous avez pu la développer ?
Alors, les cerfs-volants, c'est venu l'idée en 1983, quand ma première transat avec le Muscadet que j'avais. En fait, on avait eu un gros coup de vent dans la première étape, et la deuxième étape, pas mal de vent, puis une longue période assez calme, avec des vents assez faibles, dans le bon sens, d'alizé, mais assez faibles. Et on voyait les nuages courir beaucoup plus vite que le vent qu'on avait au niveau de la mer. Et je m'étais dit, ça serait quand même cool d'aller choper du vent en altitude pour pouvoir récupérer cette traction au niveau du bateau. Et donc, au retour de cette transat, par l'intermédiaire d'un copain, j'ai pu contacter Arnaud Dronet, qui venait de faire une liaison dans les îles du Pacifique entre deux îles. Et je savais qu'il avait traversé avec un cerf-volant. Il s'était aidé d'un cerf-volant. La nuit, ça stabilisait sa planche. Il dormait dessus avec un boudin autour. Beaucoup de gens avaient douté, mais à la vue du cerf-volant, moi, il me l'a prêté. Donc j'ai pu regarder ce que c'était, comment c'était construit. C'est des cerfs-volants qui sont construits comme aujourd'hui sont faits les parapentes, avec tout en tissu, avec des petites nervures, et puis une feuille dessus, une feuille dessous, l'extrado, l'intrado. Et donc je me suis mis à développer mes propres cerfs-volants au vu de celui-là, qui malheureusement Arnaud a disparu pendant que j'avais le cerf-volant dans la mer de Chine, enfin de Formose, et je l'ai rendu à sa femme Jenna à l'époque. Et j'ai continué à travailler sur les cerfs-volants. Et après, j'étais encore au CNRS à l'époque. Et fort de mes connaissances aérodynamiques, j'ai mis au point les cerfs-volants de plus en plus efficaces pour tirer des bateaux.
Et on en a vraiment fait beaucoup de profit de cette belle idée. Ah ben bien, je vous propose maintenant une pause musicale dans notre traversée avec vous, Sylvain Berthomé. Et ça tombe bien, parce que voici un talent de plus. Vous êtes aussi un musicien, un chanteur et joueur de blues. Vous avez composé un orchestre de copains, les Quelconques. Pas du tout Quelconques, mais celle-ci, on a déjà dû vous la faire. Nous allons écouter un extrait de votre groupe. Lequel choisissez-vous ?
Je pense que Give Me a Kiss Before I Go, c'est un morceau, un des premiers qu'on ait fait, oui.
Très bien, mais on écoute.
Give me a kiss before I go. How's every day how you have to go to get a job in the city? I want a place for your baby. Give me a kiss before I go.
Your smile is my holy chin.
Give me a kiss before I go. looking for my whole fellows. I'm looking for a good idea to be a king for you, baby. Give me a kiss before I go.
Your smile is my orange cheek.
Bienvenue aux auditeurs de RCF qui nous rejoignent dans notre émission À vos passions. Nous sommes avec Sylvain Berthomé, un passionné de la mer aux multiples talents, dont celui de chanteur, comme vous venez de l'entendre. Venons-en à l'activité qui fait aujourd'hui votre célébrité, ici et ailleurs, la fabrication du fameux couteau Farolle. Je comprends que l'idée d'un couteau vous ait travaillé. Il me semble que le couteau est au marin ce que le bâton est au pèlerin. Comment vous est venue l'étincelle ?
Alors c'est encore une histoire de bateau. C'est en fait, les cerfs-volants m'avaient amené à travailler pour une fille qui s'appelait Nicole van der Kerkhove, qui a traversé l'Atlantique avec des cerfs-volants. Et j'avais fait les cerfs-volants pour cette traversée. J'ai préparé son bateau. Elle était partie des Canaries et elle avait mis 28 jours pour traverser, ce qui est encore le record d'ailleurs. Et ensuite, on s'est retrouvé un peu sans le sou à l'arrivée de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, il a fallu rentrer. Et en rentrant avec le bateau, donc c'était aux Açores, à l'escale, je me suis fait la réflexion que les couteaux qui étaient là en vitrine chez Peter Café Sport, c'était des couteaux fabriqués par des montagnards. Et donc, je ne trouvais pas vraiment ce que je voulais. Je me disais, tiens, je veux bien voir si je peux avoir un couteau et tout. Et ça ne me plaisait pas trop. Je me suis dit, c'est drôle, on voit bien que ce n'est pas des marins qui ont dessiné ces couteaux-là. Même si dessus, il y avait des dessins marins, des encres de marine, des choses comme ça. Ce n'était pas tellement ça. Et en plus, là-bas, aux Açores, il y a une omniprésence de cachalots. Qui sont tout autour des îles, dans les fosses, entre chaque île, il y a souvent des fosses très profondes, de plus de 4000 mètres, et c'est un territoire de chasse et pour les cachalots. Et comme on les voit en mer, ces créatures-là, c'est quand même assez impressionnant, on est même avec un grand bateau, voir ces cachalots, c'est toujours impressionnant. Donc je gamberge un peu, et je me dis, tiens, ce serait pas mal de faire un couteau qui a une forme dont le manche a une forme de cachalot. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Belle histoire. Alors, vous avez du reste souligné ce lien avec la mer en donnant à vos couteaux des noms du registre marin. Le Farolle, le cachalot, pourquoi cela précisément ?
Alors Farolle, parce que je voulais un nom portugais. Parce que les Açores, quand on a la chance d'arriver en bateau aux Açores, on est accueilli par un peuple extraordinaire. Les gens qui habitent sur ces îles sont très très accueillants. Avec beaucoup de respect pour les gens qui viennent les voir en bateau. Et ça nous avait touché beaucoup. Et je voulais vraiment un nom portugais pour ça. J'ai dit Pico, Fayal, je cherchais un nom. Et puis, ben non, ça sera Farolle. Et en faisant le logo Farolle, quand je suis revenu à La Rochelle.
Farolle qui veut dire phare en portugais.
Alors phare, voilà, c'est ça, ça veut dire phare en portugais. Et en dessinant mon logo, je me suis rendu compte que c'était aussi la contraction de fabriquer Rochelle.
Oui, ah oui, bravo. oui, tout à fait. Bien sûr, hein, j'ai mon Farolle depuis que je suis à La Rochelle. Pour moi, il comble tous les sens, ce couteau. Il est beau, c'est une véritable œuvre d'art qui appelle tout de suite le regard. Et ça, c'est plus rare, c'est un vrai bonheur de l'avoir en main. C'est un vrai gris-gris pour moi, un doudou. Et parlez-nous justement du chemin qui se fait entre l'arbre et le manche du couteau.
Alors, il y a effectivement, bon, faut couper un arbre pour faire des manches de couteau. J'utilise des bois très variés, qui peuvent être des bois de pays, hein, des bois qui sont du buis, de l'abricotier, de l'if, du poirier. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'essences de bois qu'on peut déjà utiliser d'ici. Et puis, après, il y a aussi le fait qu'on soit à La Rochelle et La Palisse est entre autres un port d'importation de bois exotique. Et j'ai eu rapidement des gens qui m'ont proposé des bois exotiques et puis précieux. Et donc j'ai aussi travaillé, je me suis mis à travailler aussi beaucoup avec ces bois-là. Alors après, il y a tout le. Une fois qu'on a le bois brut, eh ben, il faut effectivement faire tout le débit, et tout le. découper de plus en plus petit le bois jusqu'à obtenir des tasseaux dans lesquels on va tracer la forme, puis encore scier cette forme, et puis ensuite la poncer à la main, à main levée. Tout le travail est entièrement fait à main levée.
Alors, votre souci de l'esthétique a du reste été récompensé. Hein, par vous avez remporté cette année le concours au Salon français de la Cotellerie à Nontron, qui avait pour thème la couleur, justement. Qu'est-ce que vous avez présenté?
J'ai présenté un couteau tout noir, qui était avec un manche en ébène, une lame noire, et sur lequel j'ai mis sur le manche une bague en émail jaune et noire. Et en fait, comme c'était le thème de la couleur, les couleurs, en fait, c'est pour représenter quelque chose, souvent. Et donc, je les ai fait aux couleurs du Stade Rochelet.
Bah, bien sûr, vous pourrez aller le voir sur le site internet de Farol. Il est très beau, en effet. Sylvain, votre nom, Berthomé, est un nom qu'on trouve en Vendée, en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime. Votre famille est-elle originaire de La Rochelle ?
Alors effectivement, la partie paternelle de ma famille est originaire plutôt de la Vendée, je crois. C'était, on avait des aïeux, oui, qui habitaient là.
Alors là, vous nous recevez dans votre atelier à La Palisse. C'est un grand bâtiment. Je ne sais pas si vous entendez les petits coups de marteau. Est-ce qu'on peut visiter vos ateliers? Est-ce qu'on peut voir comment on fabrique un couteau?
Alors nous, nos ateliers sont ouverts aux yeux quand on vient à l'atelier, pour même la boutique, on voit quand on a l'atelier derrière. Visiter l'atelier, faut nous demander évidemment avant si on peut le faire.
Bah bien sûr, on va pas débarquer comme ça.
Voilà, on peut pas, on fait pas de visite systématique, non. C'est pas possible.
Bon, d'accord. Alors Sylvain, votre vie est bien remplie malgré tout. Est-ce que vous avez en ce moment des projets, des projets en chantier autour de la mer?
Eh bien, je viens de remettre mon bateau à l'eau. Depuis quelques années, là, il était à sec pour refaire des travaux dessus. Et j'espère bien pouvoir naviguer et l'emmener peut-être dans le nord cette fois.
On vous le souhaite. Sylvain, j'aimerais terminer notre rencontre pour mieux vous connaître sur un petit clin d'œil complice. Je vais oser trois questions plus personnelles, mon petit questionnaire de Proust à moi. La première, si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre histoire?
Dans mon histoire, ce que je changerais, alors, je crois rien.
Alors dans l'avenir, avec cette même baguette magique, quel rêve choisiriez-vous de vivre?
D'avoir du temps.
Ça c'est génial, c'est une très bonne idée. Alors la question justement à laquelle vous aimeriez répondre que je ne vous ai pas posée.
Alors, eh ben pourquoi on se met à faire des choses comme ça, c'est-à-dire par exemple faire des couteaux à La Rochelle alors que c'est assez compliqué de base, parce que c'est pas l'environnement, pour trouver une clientèle, investir dans un nouvel atelier, tout ça. Je crois pour le plaisir de faire et de transmettre. Quand j'ai fait cet atelier, tout début qui a commencé à l'ancien Ancan, j'ai eu rapidement envie de fonder une équipe, parce que j'aime le travail d'équipe. De la même manière qu'en bateau, même si j'ai fait des courses en solitaire, c'est le travail d'équipe qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire soit c'est en équipe parce qu'on est en équipage, soit en équipe parce qu'on prépare un bateau ensemble pour un projet. Et ça, ce travail-là, pour moi, est très important.
Je comprends. Si vous pouviez être quelqu'un ou quelque chose en rapport avec votre passion de la mer, bien sûr, qui seriez-vous, Sylvain Berthomé?
Alors là, passion de la mer, peut-être un animal marin, un mammifère marin, peut-être.
Un gentil. Mais bien sûr.
Non.
Pas un prédateur. Une étoile de mer.
Je crois qu'on est tous un peu prédateurs de quelque chose.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas, non. Un cachalot, peut-être. Avec la,
me semble tomber sous le sens.
Un vieux cachalot.
Voilà, je vous vois bien comme ça, Sylvain Berthomé. Notre petite croisière s'achève. C'était bien agréable. Merci de nous avoir parlé de votre passion. Chers auditeurs, au revoir et à bientôt pour d'autres passions. D'ici là, je vous souhaite mille envies. Que battent nos cœurs et que vivent nos passions.